petit bonhomme, chapitre 15. Et pourquoi pas? Décidément, toutes sortes de bonheurs se succédaient dans l'existence du petit bonhomme depuis qu'il avait quitté Twillinger Castle. Bonheur d'avoir sauvé et adopté Bob, bonheur d'avoir retrouvé Gwip et Sissi, bonheur de les avoir mariés l'un à l'autre, sans parler des fructueuses affaires que faisait le jeune patron des petites poches. Il allait simplement et sûrement à la fortune, à force d'intelligence, disons de courage aussi. Sa conduite à bord de la Doris en témoignait. Un seul bonheur lui manquait, faute duquel il ne pouvait être absolument heureux, celui d'avoir pu rendre à la famille McCarthy tout le bien qu'il en avait reçu. Aussi, avec quelle impatience attendait-on l'arrivée du Queensland ? La traversée se prolongeait. Ces voiliers qui sont à la merci du vent et dans cette saison redoutable de l'équinoxe vous obligent à la patience. D'ailleurs, nulle raison encore d'être inquiet. Petit bonhomme n'avait pas négligé d'écrire à Queenstown et les armateurs du Queensland, messieurs Bennett, devaient le prévenir par dépêche dès que le bâtiment serait signalé. En attendant, on ne chômait pas au bazar du Little Boy. Petit bonhomme était devenu un héros de 15 ans. Ses aventures à bord de la Doris, la force de volonté, l'extraordinaire ténacité déployée par lui en ces circonstances, n'avaient pu qu'accroître la sympathie dont la ville l'entourait déjà. Cette cargaison défendue au péril de sa vie, il était juste que ce fût pour lui un coup de fortune. Et c'est bien ce qui arriva, grâce à la clientèle des petites poches. L'affluence prit des proportions invraisemblables. Les magasins ne se vidaient que pour se remplir aussitôt. Il fut à la mode d'avoir du thé de la Doris, du sucre de la Doris, des épiceries de la Doris, des vins de la Doris. Le rayon des jouets se vit un peu délaissé. Aussi, Bob dut-il venir en aide à Petit Bonhomme, à Grip, et même à deux commis supplémentaires, tandis que Sissi, installée au comptoir, suffisait à peine à dresser les factures. De l'avis de M. O'Brien, avant quelques mois, le capital engagé dans l'affaire de la cargaison serait quadruplé, si ce n'est quintuplé. Les 3 500 livres en produiraient au moins 15 000. L'ancien négociant ne se trompait pas en prévoyant un pareil résultat. Il disait bien haut, d'ailleurs, que tout l'honneur de cette entreprise revenait à Petit Bonhomme. Qu'il l'eût encouragé, soit, mais c'était le jeune patron, lui seul qui en avait eu l'idée première, en lisant l'annonce de la Chipping Gazette, et l'on sait avec quelle énergie il avait mené à bonne fin. On ne s'étonnera donc pas que le bazar de Little Boy fût devenu non seulement le mieux achalandé, mais le plus beau de Bedford Street, et même du quartier. La main d'une femme s'y reconnaissait à 1000 détails. Et puis, Sissi était si activement secondée par Gwip. Vrai, Gwip commençait à se faire à cette idée qu'il était son mari, surtout depuis qu'il croyait entrevoir. Oh, orgueil paternel, que la dynastie de ses ancêtres ne s'éteindrait pas en sa personne. Quel époux que ce brave garçon, si dévoué, si attentif, si... Nous en souhaitons un pareil à toutes les femmes qui tiennent à être, nous ne disons pas adorer, mais idolâtrer sur cette terre. Et lorsque l'on songeait à ce qu'avait été leur enfance, à tous, Sissi dans le taudis de la Hard, Creep à la Wagot School, Bob sur les grandes routes, Birk lui-même aux alentours de Twillinger Castle, si heureux actuellement, et redevable de ce bonheur à ce garçon de 15 ans. Qu'on ne s'étonne pas si nous citons Birk parmi ces personnes privilégiées. Est-ce qu'il n'était pas compris, sous la raison sociale, Little Boy and Co. Et la bonne Kate, ne le regardait-elle pas comme un des associés de la maison? Quant à ceux qu'étaient devenus ou deviendraient les autres auxquels avait été mêlée son existence, Petit Bonhomme ne voulait pas s'en inquiéter. Sans doute, Tantpip continuait à courir les comtés en montrant des marionnettes défraîchies de la famille royale. Monsieur Hopbodkins à s'abrutir par l'abus des écritures de sa comptabilité. Le marquis et la marquise Piborn à se confier dans cette auguste imbécilité dont leur fils, le comte Ashton, avait hérité dès sa naissance. Monsieur Scarlett à gérer à son profit le domaine de Tredingar. Miss Anna Watson à mourir au cinquième acte des drames. Bref, on n'avait jamais eu aucune nouvelle de ces gens-là. Si ce n'est de Lord Piborn, lequel, d'après le Times, s'était enfin décidé à faire un discours à la Chambre des Lords, mais avait dû renoncer à la parole parce que le râtelier de sa seigneurie fonctionnait mal. Quant à Carker, il n'était pas encore pendu, à l'extrême étonnement de Gwip, mais il s'approchait visiblement de la potence, ayant été récemment pris à Londres dans une rafle de jeunes gentlemen de son espèce. Il n'y aura plus lieu de s'occuper de ces personnages de haute et basse origine. Restaient les McCarthy, auxquels petit bonhomme ne cessait de penser, dont il attendait le retour avec tant d'impatience. Les rapports de mer n'avaient plus signalé le Queensland. S'il tardait de quelques semaines, à quelles inquiétudes on serait en proie. De violentes tempêtes avaient balayé l'Atlantique depuis quelque temps, et la dépêche promise par les armateurs de Queenstown qui ne venait pas. L'employé du télégraphe l'apporta enfin, le 5 avril, dans la matinée. Ce fut Bob qui la reçut. Aussitôt ses cris de retentir au fond du bazar. « Une dépêche de Queenstown !» répétait Bob. « Une dépêche de Queenstown !» On allait donc connaître ces honnêtes McCarthy. La famille d'adoption de petit bonhomme était de retour en Irlande, la seule qu'il eût jamais eue. Il était accouru au cri de Bob. Puis Sissy, Gwip, Kate, Monsieur O'Brien, tout le monde l'avait rejoint. Voici ce que contenait cette dépêche. Queenstown, 5 avril, 9h25. Petit bonhomme, Little Boy, Bedford Street. Dublin. Queensland, entré ce matin au dock. Famille McCarthy à bord, attendons vos ordres. Bennett. Petit bonhomme fut pris d'une sorte de suffocation. Son cœur avait cessé de battre un instant. D'abondantes larmes le soulagèrent, et il se contenta de dire, en serrant la dépêche dans sa poche, « C'est bien !» Puis, il ne parla plus de la famille McCarthy, ce qui ne laissa pas de surprendre M. et Mme Gwip, Bob, Kate et M. O'Brien. Il retourna comme d'habitude à ses affaires. Seulement, M. Balfour eut à passer écriture d'un chèque de 100 livres qu'il délivra au jeune patron sur sa demande expresse et dont celui-ci n'indiqua pas l'emploi. 4 jours s'écoulèrent, les 4 derniers jours de la semaine sainte, car cette année-là, Pâques tombait le 10 avril. Le samedi, dans la matinée, petit bonhomme réunit son personnel et dit « Le bazar sera fermé jusqu'à mardi soir. » C'était congé donné à M. Balfour et aux 2 commis. Et sans doute, Bob, Gwip et Sissy se proposaient d'en profiter pour leur compte lorsque petit bonhomme leur demanda s'ils n'accepteraient pas de voyager pendant ces 3 jours de vacances. « Voyager ?» s'écria Bob. « J'en suis. Où ira-t-on » « Dans le comté de Kewi, que je désire revoir, » répondit petit bonhomme. Sissy le regarda. « Tu veux que nous t'accompagnions ? » dit-elle. « Cela me ferait plaisir. »« Alors, je serai de ce voyage ?» demanda Gwip. « Certainement. »« Et Burke ?» ajouta Bob. « Burke aussi. » Voici ce qui fut alors convenu. Le bazar devant être laissé à la garde de Kate, on s'occuperait des préparatifs que nécessite une absence de 3 jours. On prendrait l'express à 4 heures du soir, on arriverait à Twally vers 11 heures, on y coucherait, et le lendemain, eh bien, le lendemain, petit bonhomme ferait connaître le programme de la journée. À 4 heures, les voyageurs étaient à la gare. Gwip et Bob, très gais, bien entendu, Et pourquoi ne l'aurait-il pas été? Sissi, moins expansive, observant petit bonhomme, qui restait impénétrable. « Twelly, se disait la jeune femme, c'est bien près de la ferme de Kerouan. Veut-il donc retourner à la ferme ?» Burke aurait peut-être pu lui répondre, mais le sachant discret, elle ne l'interrogea pas. Le chien fut placé dans la meilleure niche du fourgon, avec recommandation spéciale de Bob, appuyé d'un shilling de bon aloi. Puis, petit bonhomme et ses compagnons de voyage montèrent dans un compartiment, de première classe, s'il vous plaît. Les 170 milles qui séparent Dublin de Twelly furent franchis en 7 heures. Il y eut un nom de station jeté par le conducteur qui impressionna vivement notre jeune garçon. Ce fut le nom de Limerick. Il lui rappelait ses débuts au théâtre, dans le drame des remords d'une mère, et la scène où il s'attachait si désespérément à la duchesse de Kendall en la personne de Miss Anna Watson. Ce ne fut qu'un souvenir qui s'effaça comme les fugitives images d'un rêve. Petit bonhomme, qui connaissait Twelly, conduisit ses amis au premier hôtel de la ville, où ils soupèrent convenablement et dormirent d'un tranquille sommeil. Le lendemain, jour de Pâques, petit bonhomme se leva dès l'aube. Tandis que Sissi procédait à sa toilette, que Gwib demeurait aux ordres de sa femme, que Bob ouvrait les yeux en s'étirant, il alla parcourir la bourgade. Il reconnut l'auberge où M. Martin descendait avec lui, la place du marché où il avait pris goût aux choses de commerce, la boutique du pharmacien dans laquelle il avait dépensé une partie de sa guinée pour grand-mère qu'il devait retrouver morte à son retour. À 7 heures, un jaunting car attendait à la porte de l'hôtel. Bon cheval et bon cocher, le maître de l'hôtel en répondait, moyennant un prix consciencieusement débattu. Tant pour le véhicule, tant pour la bête qui le traîne, tant pour l'homme qui le conduit, tant pour les pourboires, ainsi que cela se fait en Irlande. On partit à 7h30 après un déjeuner frugal. Il faisait beau temps, soleil pas trop chaud, brise pas trop méchante, ciel de nuages floconneux. Un dimanche de Pâques sans pluie, voilà qui n'est certes pas commun dans l'île Émeraude. Le printemps, assez précoce cette année-là, se prêtait aux épanouissements de la végétation. Les champs ne devaient pas tarder à verdir, les arbres à bourgeonner. Une douzaine de milles séparent Twelly de la paroisse de Silton. Que de fois petit bonhomme avait parcouru cette route dans la carriole de M. McCarthy. La dernière fois, il était seul. Il revenait de Twelly à la ferme. Il s'était caché derrière un buisson, au moment où apparaissaient les constables et les recors. Ses impressions le reprenaient. Du reste, le chemin n'avait subi aucune modification depuis cette époque. Ça et là, de rares auberges, des terres en friche. Paddy est réfractaire au changement, et rien ne change en Irlande, pas même la misère. À 10 heures, le jaunting car s'arrêta au village de Silton. C'était l'heure de la messe, la cloche sonnait. Elle y était toujours, cette modeste église, bâtie de guingois, avec son toit boursouflé, ses murs hors d'aplomb. Là avait été célébré le double baptême de petit bonhomme et de sa filleule. Il entra dans l'église avec Sissi, Gwib et Bob, laissant Burke devant la porte. Personne ne le reconnut, ni aucun des assistants, ni le vieux curé. Pendant la messe, on se demandait quelle était cette famille, dont les membres n'avaient entre eux aucun point de ressemblance. Et tandis que petit bonhomme, les yeux baissés, revivait au milieu de ses souvenirs si mélangés de jours heureux et malheureux, Sissi, Gwip et Bob priaient d'un cœur reconnaissant pour celui auquel ils devaient tant de bonheur. Après un déjeuner, servi à la meilleure auberge de Silton, le jaunting car se dirigea vers la ferme de Kerouan, distante de 3 milles. Petit bonhomme sentait ses yeux se mouiller en remontant cette route, si souvent suivie le dimanche, en compagnie de Martine et de Kitty, et aussi de grand-mère quand elle le pouvait. Quel morne aspect! On sentait un pays abandonné, partout des maisons en ruine, Et quelle ruine, faite pour obliger les évictés à quitter leur dernier abri. En maint endroit, des écriteaux attachés aux murailles, indiquant que telle ferme, telle hutte, tel champ, étaient à louer ou à vendre. Et qui eût osé les acheter ou les affermer, puisqu'on n'y avait récolté que la misère. Enfin, vers 1h30, la ferme de Kerouan apparut au tournant du chemin. Un sanglot s'échappa de la poitrine de petit bonhomme. « C'était là, » murmura-t-il. « En quel triste état cette ferme ! Les haies détruites, la grande porte défoncée, les annexes de droite et de gauche à demi abattues, la cour envahie par les orties et les ronces. Au fond, la maison d'habitation sans toiture, les portes sans vantaux, les fenêtres sans châssis. Depuis 5 ans, la pluie, la neige, le vent, le soleil même, tous ces agents de destruction avaient fait leur œuvre. Rien de lamentable comme ces chambres démeublées, ouvertes à toutes les intempéries. Et là, celle où petit bonhomme couchait près de grand-mère. « Oui, c'est Kerouan, » répétait-il, et on eût dit qu'il n'osait pas entrer. Bob, Gwip et Sissi se tenaient en silence un peu en arrière. Burke allait et venait, inquiet, humant le sol, retrouvant aussi, lui, des souvenirs d'autrefois. Soudain, le chien s'arrête, son museau se tend, ses yeux étincellent, sa queue s'agite. Un groupe de personnes vient d'arriver devant la porte de la cour. 4 hommes, 2 femmes, 1 fillette. Ce sont des gens pauvrement vêtus et qui paraissent avoir souffert. Le plus vieux se détache du groupe et s'avance vers Gwip, qui, par son âge, semble être le chef de ces étrangers. « Monsieur, lui dit-il, on nous a donné rendez-vous en cet endroit. Vous, sans doute ?»« Moi ?» répond Gwip, qui ne connaît pas cet homme et le regarde, non sans surprise. « Oui, lorsque nous avons débarqué à Queenstown, une somme de 100 livres nous a été remise par l'armateur qui avait ordre de nous diriger sur Tralee. » En ce moment, Burke fait entendre un vif aboiement de joie et s'élance vers la plus âgée des 2 femmes, avec 1000 démonstrations d'amitié. « Ah !» s'écrie celle-ci. « C'est Burke, notre chien Burke, je le reconnais. »« Et vous ne me reconnaissez pas, ma mère Martine ?» dit petit bonhomme. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Lui, notre enfant ?» Comment exprimer ce qui est inexprimable ? Comment peindre la scène qui suivit ? Monsieur Martin, Murdoch, Pat, Sim ont pressé petit bonhomme entre leurs bras. Et maintenant, lui, il couvrait de baisers Martine et Kitty. Puis, saisissant la fillette, il l'enlève, il la dévore de baisers. Il la présente à Sissi, à Gwip, à Bob, en s'écriant « Ma Jenny, ma filleule !» Après ces marques d'effusion, on s'assit sur les pierres éboulées au fond de la cour. On causa. Les McCarthy durent raconter leur lamentable histoire. À la suite de l'éviction, on les avait conduits à Limerick, où Murdoch fut condamné à la prison pour 2 mois. Sa peine achevée, M. Martin et la famille s'étaient rendus à Belfast. Un navire d'émigrants les avait transportés en Australie, à Melbourne, où Pat, abandonnant son métier, n'avait pas tardé à les rejoindre. Et alors, que de démarches, que de peines pour n'aboutir à rien! Cherchant de l'ouvrage, de ferme en ferme, tantôt travaillant ensemble, mais dans quelles conditions déplorables, tantôt séparés les uns des autres, au service des éleveurs. Et enfin, après 5 ans, ils avaient pu quitter cette terre, aussi dure pour eux que l'avait été leur terre natale. Avec quelle émotion, petit bonhomme regardait ces pauvres gens. Monsieur Martin, vieilli, Murdoch, aussi sombre qu'il l'avait connu, Pat et Sim, épuisés par la fatigue et les privations, Martine, n'ayant plus rien de la fermière alerte et vive qu'elle était 2 années avant, Kitty, qu'une fièvre permanente semblait miner, et Jenny, à demi étiolé par tant de souffrances déjà subies à son âge. C'était à fendre le cœur. Sissi, près des deux fermiers et de la fillette, mêlait ses larmes aux leurs et essayait de les consoler, leur disant « Vos malheurs sont finis, madame Martine, finis comme les nôtres, et grâce à votre enfant d'adoption. » « Lui ? » s'écria Martine. « Et que pourrait-il ? » « Toi, mon garçon ? » répéta monsieur Martin. Petit bonhomme était incapable de répondre, tant l'émotion le suffoquait. « Pourquoi nous as-tu ramenés en cet endroit qui nous rappelle ce passé misérable ? » demanda Murdoc. « Pourquoi sommes-nous dans cette ferme où ma famille et moi nous avons souffert si longtemps ? Petit bonhomme, pourquoi as-tu voulu nous remettre en face de ces tristes souvenirs ?» Et cette question était sur les lèvres de tous, aussi bien les McCarthy que Sissi, Grip, Bob. Quelle avait donc été l'intention de petit bonhomme en assignant aux uns comme aux autres ce rendez-vous à la ferme de Kerouan ? Pourquoi ? Répondit-il en se maîtrisant non sans peine. « Venez, mon père, ma mère, mes frères, venez. » Et on le suivit au centre de la cour. Là, du milieu des broussailles et des ronces, s'élevait un petit sapin verdoyant. « Jenny, dit-il en s'adressant à la fillette, tu vois cet arbre ? Je l'ai planté le jour de ta naissance. Il a 8 ans, comme toi. » Kitty, à laquelle cela rappelait le temps où elle était heureuse, où elle pouvait espérer que son bonheur aurait au moins quelque durée, éclata en sanglots. « Jenny, ma chérie, reprit petit bonhomme, tu vois bien ce couteau ? » C'était un couteau qu'il avait tiré de sa gaine de cuir. « C'est le premier cadeau que m'a fait grand-mère, ta bisaïeule que tu as à peine connue. » À ce nom évoqué au milieu de ces ruines, M. Martin, sa femme, ses enfants, sentirent leur cœur débordé. « Jenny, continua petit bonhomme, prends ce couteau et creuse la terre au pied du sapin. » Sans comprendre, après s'être agenouillée, Jenny dégagea les broussailles et fit un trou à l'endroit indiqué. Bientôt, le couteau rencontra un corps dur. Il y avait là un pot de grès, resté intact sous l'épaisse couche de terre. « Retire ce pot, Jenny, et ouvre-le. » La fillette obéit, et chacun la regardait sans prononcer une parole. Lorsque le pot eut été ouvert, on vit qu'il contenait un certain nombre de cailloux, de l'espèce de ceux qui sèment le lit de la Clachen dans le voisinage. « Monsieur Martin, dit petit bonhomme, vous rappelez-vous ? Chaque soir vous me donniez un caillou lorsque vous aviez été content de moi. Oh oui, mon garçon, et il n'y a pas eu un seul jour où tu n'aies mérité d'en recevoir un. » Il représente le temps que j'ai passé à la ferme de Kerouan. Eh bien, compte-les, Jenny. Tu sais compter, n'est-ce pas ? Oh oui, répondit la fillette. Et elle se mit à compter les cailloux en faisant des petits tas par centaines. « 1540, dit-elle. « C'est bien cela, répondit petit bonhomme. « Cela fait plus de 4 ans que j'ai vécu dans ta famille, ma Jenny, ta famille qui était devenue la mienne. » « Et ces cailloux, dit monsieur Martin en baissant la tête, ce sont les seuls gages que tu aies jamais reçus de moi. Ces cailloux que j'espérais te changer en shilling. Et qui, pour vous, mon père, vont se changer en guinée ? » Ni M. Martin, ni aucun des siens ne pouvaient croire, ne pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. Une pareille fortune ? Est-ce que petit bonhomme était fou ? Sissi comprit leurs pensées et se hâta de dire « Non, mes amis, il a le cœur aussi sain que l'esprit, et c'est son cœur qui parle. » « Oui, mon père Martin, ma mère Martine, mes frères Murdoc, Pat et Sim, et toi Kitty, et toi ma filleule, oui, je suis assez heureux pour vous rendre une part du bien que vous m'avez fait. Cette terre est à vendre, vous l'achèterez, vous relèverez la ferme, l'argent ne vous manquera pas. Vous n'aurez plus à subir les mauvais traitements d'un Harbert, vous serez chez vous, vous serez vos maîtres. » Et alors, petit bonhomme fit connaître toute son existence depuis le jour où il avait quitté Kerouan et dans quelle situation il se trouvait à présent. Cette somme qu'il mettait à la disposition de la famille McCarthy, cette somme représentée en guinée par les 1540 cailloux, cela faisait 1540 livres, une fortune pour de pauvres Irlandais. Et ce fut la première fois, peut-être, que sur cette terre qui avait été arrosée de tant de pleurs, tombèrent des larmes de joie et de reconnaissance. La famille McCarthy demeura ces 3 jours de Pâques au village de Silton avec Petit Bonhomme, Bob, Sissy et Grip. Et, après de touchants adieux, ceux-ci revinrent à Dublin, où, dès le matin du 11 avril, le bazar rouvrit ses portes. Une année s'écoula. Cette année 1887, qui devait compter comme une des plus heureuses dans l'existence de tout ce petit monde. Le jeune patron avait alors 16 ans accomplis. Sa fortune était faite. Les résultats de l'affaire de la Dowis avaient dépassé les prévisions de M. O'Brien, et le capital de Little Boy & Co. s'élevait à 20 000 livres. Il est vrai, une partie de cette fortune appartenait à M. et Mme Grip, à Bob, les associés de la maison des petites poches. Mais est-ce que tous ne formaient pas qu'une seule et même famille? Quant au McCarthy, après avoir acquis 200 acres de terre dans d'excellentes conditions, ils avaient relevé la ferme, rétabli le matériel, racheté le bétail. Il va sans dire que force et santé leur étaient revenues, en même temps que l'aisance et le bonheur. Songez donc, des Irlandais, de simples tenanciers qui ont longtemps pâti sous le fouet du landlordisme, maintenant chez eux, ne travaillant plus pour d'impitoyables maîtres. Quant à Petit Bonhomme, il n'oublie pas, il n'oubliera jamais qu'il est leur enfant par adoption. Et il pourra bien se faire, un jour, qu'il se rattache à eux par des liens plus étroits. En effet, Ginny va sur ses 10 ans, elle promet d'être une belle jeune fille. Mais c'est sa filleule, dira-t-on. Eh bien, qu'importe, et pourquoi pas? C'est du moins l'avis de Burke.